Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, marhaba bikoum dans cet espace hebdomadaire que vous propose Radio Alger Chien 3. Et oui, nous sommes ensemble tous les vendredis sur les ondes positives de Au cœur de l'islam. Au cœur de l'islam qui est bien plus qu'un programme de radio, c'est un cheminement par lequel nous apprenons, nous grandissons et nous tirons les plus belles leçons d'humanité, à l'exemple de cette rencontre du week-end dernier, où un groupe de gens totalement conscients, alignés et synchrones, aspirant au meilleur, ont fait la plus belle démonstration que l'Algérie a du potentiel et du heavy one, celui-là même qui est passible de nous mettre au devant de la scène et même sur les places les plus prépondérantes. Mais ça fait sens bien sûr lorsque l'on va vers la source et que l'on féconde l'algérianité. Donc rêvez, donnez-vous les outils qu'il faut, croyez en vous et vous êtes un leader. Merci donc à cette belle communauté des cheminants sur la voie de l'excellence. Khaira, Radia, Majda, Iman, Naila, Amira, Sirine, Fatma Zohra, Ahmed, Fela, Camélia et tous les autres. Et merci à la source et à toutes les sources qui nous réconcilient avec le possible et l'évident. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamel Shekat, je voudrais qu'on commence par un récit au sujet du prophète Sidna Rasulullah alayhi salatu wasalam et Mu'adh ibn Jabal, qui était donc envoyé au Yémen. Oui. Le prophète alayhi salatu wasalam lui avait dit « Innaka sataqdumu ala qawmin min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayh tawhiduhu ta'ala fa in arafu dhalika fa akhbirhum bi anna Allah farada alayhim khamsa salawatin »
Tu vas rencontrer des gens appartenant à la communauté des gens du livre. Tu vas les appeler d'abord au sentier de Dieu. Ensuite, tu leur feras savoir qu'ils sont redevables à Dieu de 5 prières durant la nuit et le jour. Mais avant cela, فَإِنْ عَرَفُوا اللَّهِ, quand ils connaîtront Dieu, quand tu les auras informés au sujet de Dieu, tu leur diras qu'ils sont redevables d'un certain nombre de prières obligatoires. Et aussi, par la suite, il va leur parler aussi de l'aumône légale, zakat. La connaissance de Dieu, donc, est préalable à tout ce que pourrait entreprendre le croyant en termes de culte.
Dans notre processus quotidien, Kamel Shekat, autour de nous, on initiait les enfants d'abord à la prière.
Oui.
Puis, après, une fois un peu mûr, un peu mature, on les initie à la connaissance de Dieu. Pourquoi l'on commence par la fin avec les enfants ?
Comment ça, par la fin ?
On commence par la prière, tenant compte de ce hadith donc au sujet de l'émissaire de Sidna Rasulullah.
Oui.
Il lui avait demandé, exhorté de parler d'abord de Dieu.
Oui.
Et s'il reconnaissait Dieu subhanahu, là, il passerait au deuxième stade.
Les enfants ont tendance à imiter les grands. À partir de là, on va leur apprendre ce qui les met d'entrée de jeu dans le bain. C'est-à-dire, ils font ce que font les grands, sans même se poser de questions. Mais là, il lui demande de discuter avec des gens doués de raison. Donc,
connaissant déjà Dieu.
Oui.
Connaissant déjà une entité divine.
Oui, reconnaissant une entité divine et beaucoup plus reconnaître qu'il y a un culte que l'on doit rendre à cette divinité.
Divinité donc, peut-être trinitaire ou unitariste.
Oui, que c'est des gens du livre.
Ouais.
Non, mais le problème, c'est que...
Il y avait des juifs au Yémen précédemment.
Oui,
énormément.
Oui. D'ailleurs, l'arabe que parlent justement ces juifs-là, c'est un arabe qui est beaucoup plus proche de l'araméen et du syriaque, qui pour beaucoup de linguistes ne sont pas des langues à part, ce sont des formes arabiques. J'entendais il n'y a pas longtemps cet illuminé de Moézé qui disait, oui, qui parlait de Zekot, de Selot, etc. et qui disait que voilà, le Coran a imité l'hébreu, mais en fait, c'est plutôt l'hébreu qui a imité l'arabe.
Oui, mais vous savez, Amir Moézi n'est pas une référence dans l'islam iranien.
Oui, on le sait.
Hein.
Non, c'est une référence pour ceux qui s'attaquent à l'islam.
C'est simplement une référence en Europe, en France surtout.
En France, pas plus. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, demande à Mu'adh ibn Jabal de parler à ces gens-là de Dieu, de disserter au sujet de Dieu, pour beaucoup, ça pourrait sembler quelque peu dénué de sens dans la mesure où ce sont des monothéistes. Mais en fait, ce ne sont pas des monothéistes. Nous avons affaire à un monothéisme qui a été plus qu'altéré. Donc certains pourraient voir en cela une sorte de non-sens, parce que voilà, pourquoi expliquer ce qu'est Dieu à des monothéistes ? En fait, nous sommes dans une forme d'adoration de Dieu ou de reconnaissance de Dieu qui a été largement altérée. Pour ce qui est des chrétiens, nous avons la Trinité, qui est en inadéquation totale avec le monothéisme. Mais attention, ces gens-là se revendiquent du monothéisme. Non seulement il y a cette histoire de Trinité qui s'est forgée sur pratiquement 2 siècles et demi, parce que la Trinité, elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain, mais dans la Trinité elle-même, et concernant Jésus, alayhi salam, nous avons en un premier temps le nestorianisme qui parlait d'un Jésus avec une partie qui était d'essence humaine et une autre partie qui était d'essence divine. Ensuite, on va aller vers le monophysisme, c'est-à-dire que Jésus va devenir d'essence divine de manière exclusive. Il y a rien d'humain chez Jésus, alayhi salam. Donc tout cela méritait quand même des éclaircissements. Maintenant, puisque Mu'adh ibn Jabal était au Yémen, il y a une tradition judaïque aussi. Et là, ce qu'il faut savoir, parce que beaucoup peut-être de nos musulmans penseraient que voilà, avec les juifs, il n'y a pas de problème, c'est des monothéistes purs. Ils reconnaissent Yahvé et Elohim, appelez-le comme vous voulez, mais en fait...
Herzl, Golda Meir...
Oui, les rabbins. Mais en réalité, dans le judaïsme, il y avait une monolâtrie. C'est-à-dire qu'on reconnaissait Yahvé ou Elohim, comme nous reconnaissons Allah, subhanahu wa ta'ala, sauf que on faisait des offrandes pour d'autres divinités, on reconnaissait d'autres divinités, comme Baal-Péor, Moloch, et j'en passe. La différence entre la monolâtrie et le polythéisme, c'est que dans le polythéisme, tel qu'il existait à la Mecque, à l'ère pré-islamique, il y avait une multitude de divinités, quelques 360 idoles, et à chacune de ces idoles, il y avait des gens qui rendaient des cultes, c'est-à-dire on adorait l'idole elle-même, on lui faisait des offrandes, etc. Dans la monolâtrie, on ne rend de culte qu'à Yahvé ou Elohim, mais on procédait à des holocaustes, à des offrandes, à d'autres divinités qu'on reconnaissait en tant que telles, sans leur rendre un culte. C'est là que réside la différence. Donc, avec Mu'adh ibn Jabal, il fallait d'abord commencer par corriger tout cela avant de passer à la pratique.
C'est fou que Mashaqat, comme les processus du changement dans tous les domaines, hein, sont pratiquement ressemblants et semblables, je dirais même. Hein. Ils obéissent tous à la même technique, faire la rupture, réformer et puis substituer les anciennes croyances, mettre quelque chose d'autre à la place.
Je ne sais plus qui est ce compagnon qui disait « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufriruna, thumma yamlauna » ce qu'on appelle « tahliya ou tsfiya ». Ça veut dire que, voilà, l'être humain est un réceptacle. Et à partir de là, on va vider ce réceptacle de tout ce qui est secondaire, mauvais, et on va le remplir de nouveau par ce qui pourrait lui être bénéfique. Et c'est ce que faisait le messager de Dieu, alayhi salatu
salam. Et d'ailleurs, c'est de cette façon que fonctionne même notre cerveau. Alors, Kamel Chekat, aujourd'hui, l'on va reprendre avec une étude qu'on a interrompue il y a un certain nombre de mois, parce qu'il y avait une actualité sur laquelle il fallait revenir, parce qu'il y avait des questions de nos auditeurs qui attendaient et auxquelles on devait répondre.
Oui.
Et aujourd'hui, donc, on reprend avec un manuel écrit par un grand savant d'ici, de chez nous, de Biskra. Alors aujourd'hui, il est question de reprendre l'étude du Mukhtasar al-Akhdari, qui est d'ailleurs un manuel indispensable pour tous ceux qui ont l'intention d'aller sur le chemin de l'acquisition du savoir et de pouvoir donc en dispenser par la suite.
Oui.
Un abrégé Kamel Chekat que vous connaissez très bien, un abrégé qui traite essentiellement des règles inhérentes à la prière selon le rite de l'imam Malik,
oui.
Un texte concis, utilisé autant par les débutants et les étudiants. Et peut-être je pourrais donner la primeur Kamel Chekat, vous préparez quelque chose au sujet de ce Mukhtasar. Après des années d'études, vous comptez y revenir de façon différente, vous le revisitez, vous l'annotez, vous le traduisez et vous allez le proposer en publication
Inch'Allah.
À votre auditoire.
Je pense, quand on a longuement étudié et compulsé les références même de cette école malékite, vous savez, Mukhtasar al-Akhdari, c'est un livre qu'on étudie en université à l'heure actuelle. Et contrairement à, par exemple, Metn ibn Ashir, qui est un recueil versifié, ou bien à Metn al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani,
l'épître. Encore notre Abu Zayd.
Alors, Ibn Ashir le dit, l'Il Mubtadi, c'est un livre pour débutants. Dans Metn al-Risala, dans l'introduction, Al-Qayrawani dit qu'il avait écrit ce livre pour l'un de ses amis qui était instituteur, ce qu'on appelle actuellement un instituteur coranique, quelqu'un qui enseignait dans un kutab. Donc il était destiné à des enfants, vous imaginez. Mais ce livre, justement, le Mukhtasar al-Ibadat, que tous les malékites étudient en premier, en tout premier lieu. On étudie Mukhtasar al-Ibadat, ensuite on passe à Metn ibn Ashir, ensuite on passe à Metn al-Risala, et enfin on termine avec Mukhtasar Khalil ibn Ishaq, l'abrégé de Khalil. Alors, l'abrégé de Khalil, c'est, on appelle ça Fiqh al-Masa'il. Il a décortiqué pratiquement tout ce qui concerne le culte ou l'aspect cultuel dans l'école malékite. Et là encore, nous n'abordons qu'une partie des avis de l'école malékite. Pas tous les avis, pas toutes les écoles. Mais ce livre, justement, ce petit opuscule, qu'on peut apprendre pratiquement en moins d'une semaine par cœur.
Oui, on peut l'apprendre. Par la suite.
C'est un livre qui est finalement hyper condensé. Et moi, l'Abdou Daif, plutôt que de faire, parce que jusqu'à présent, hein, la dernière acquisition d'un livre explicatif de ce Metn al-Akhdari, je l'ai acheté à Nouakchott. Nouakchott, ils ont quand même une école malékite qui est très très puissante, c'est-à-dire ils ont ce qu'ils appellent là-bas le mahdarat. C'est comme les zaouias que nous avons ici, mais c'est quelque chose quand même d'assez relevé. Et je me suis rendu compte que pratiquement il ne s'écoulait pas une année sans qu'il y ait quelque part dans le monde, et quelle que soit l'école de celui qui fait une glose sur ce petit livret, il ne se passe pas donc une année sans qu'il n'y ait une nouvelle production concernant Metn al-Akhdari. Sauf que voilà, plutôt que d'ajouter quelque chose à ce qui a été fait par les prédécesseurs, parce que les premiers, ils ne nous ont rien laissé. C'est incroyable. Ils ont tellement bien fait leur travail qu'il est très, très difficile d'ajouter ou de ramener quoi que ce soit de nouveau dans ce qui a été dit. Wa in kan, comme dirait l'autre, du fait que cette science ou l'acquisition de la science est un don de Dieu, peut-être que Dieu donnerait au dernier ce qu'il n'a pas donné au premier. On peut compter sur ça,
Inch'Allah.
Absolument. Mais ce qui m'intéresse dans ce petit opuscule, c'est le fait d'aborder tout cela sous l'angle des sciences humaines et de la psychologie. Les neurosciences nous ont ouvert une voie terrible. Et finalement,
l'infinitude.
Oui, vous savez, tout s'explique. Et j'ai tellement, alhamdoulilah, j'ai tellement, on va dire, creusé dans ce sens que je me suis rendu compte finalement que Souvenez-vous, quand on a décidé de faire Mukhtasar al-Akhdari, je vous disais, à un moment donné de l'histoire, il y a eu un certain Abu Hamidin al-Ghazali. On dit aussi Abu Hamidin al-Ghazali parce qu'il était tisserand, al-Ghazali. Il était dans le ghazl. Ce qui est bien, c'est que quand il a eu l'idée d'écrire Ihya Ulumdin, la revivification des sciences de la religion, il l'a fait à une période ou à une époque où la communauté de l'islam baignait dans un folklore létal, quoi. Et nous sommes dans la même configuration. Et c'est pour ça que je vous disais, peut-être qu'il serait plus opportun pour nous, ou plus bénéfique, de revenir à quelque chose qui pourrait nous reconstruire, plutôt que de rester sur ces joutes oratoires qui ornent nos émissions. Ma foi, plutôt que de passer de, excusez l'expression, que de se faire bouffer notre substance en répondant à ces niais de coranistes à la noix, et je ne m'excuse pas du tout de ce que je suis en train de dire, il serait plus bénéfique pour nous d'aller vers quelque chose qui nous reconstruirait, qui nous réconcilierait avec nos fondamentaux. Donc c'est pour cela qu'il y a eu ce choix. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que ce que nous avons étudié quand on était dans nos premières classes, finalement, c'est un livre qui est beaucoup, beaucoup plus relevé, beaucoup plus épicé que ce que je pensais.
Alors que M. Kat, avant de faire notre immersion dans cette Qurra, cette Najab, comme ce terme a été utilisé pour le livre d'Ibn Atta al-Sakandari, Qurra, cette Najab, Hawat Maqasid, l'Ihya wa Ziyada, eh bien, on pourrait dire la même chose de ce manuel parce qu'il touche à tous les compartiments, à tous les chapitres de la religion musulmane, donc que ce soit les fondements de la foi ou les cinq piliers de l'islam. Oui. Et plus nous avancerons dans cet ouvrage, les auditeurs en prendront conscience. Mais ce que j'ai remarqué, Kamal Shekat, et c'est le propre des érudits musulmans, des grands savants et de tous ceux qui ont atteint la toiture du savoir, après un long parcours, après avoir pondu, entre guillemets, de grands ouvrages au sujet du dogme et d'autres disciplines de l'islam, on revient toujours à ces petits manuels qui sont censés être pour les débutants. Pourquoi, Kamal Shekat, vous, après tout votre parcours, après avoir été auprès des grands maîtres d'Algérie, vous revenez au manuel de l'Akhdari?
Oui, parce que déjà, le fait de revenir à ce petit opuscule et celui que j'ai à la maison qui me sert de pratiquement de livre de chevet ou qui m'a servi de livre de chevet pendant des années, c'est ce qu'on appelait à l'époque « Tab'a al-Hajariya ». C'est les pages jaunes. Et avant, je me souviens à un moment donné quand il y a eu ce qu'on a baptisé « Sahwa », donc le renouveau ou l'éveil, certains nous disaient « Attendez, vous êtes toujours là en train de lire « Ktabat Ta'alwal Qsfora », les pages jaunes. Ouais. » Et oui, c'est « Tab'a al-Nabatiya » ou bien « Tab'a al-Hajariya », c'est ça qui nous a forgé. Mais ce qui est bien, c'est que le fait de tenir encore entre les mains ce même petit livret, petit opuscule, moi, par exemple, il me replace dans cette naïveté qui était la nôtre à l'époque où nous avions commencé à étudier. Je me souviens que quand on a commencé à étudier Mukhtasar al-Akhdari, j'étais loin de me douter de tout ce que les connaissances religieuses allaient produire de mauvais dans la communauté de l'islam. Parce que finalement, tout ce que nous avons vécu, par exemple ici en Algérie, durant ce que nous avons baptisé « décennies sanglantes », eh bien, c'est dû à une mauvaise connaissance de la religion, qu'on le veuille ou non. Et c'est dû aussi au fait que ceux qui ont étudié avec un parti pris et avec une mauvaise intention dans la majorité des cas. Parce que quelqu'un qui est animé d'une bonne intention ne peut en aucun cas sombrer dans la barbarie et l'animosité ou la bestialité dans laquelle ont sombré certains de nos frères, si on peut les considérer comme des frères. Revenir justement à tout cela, c'est revenir à cette innéité, revenir à cette naïveté, revenir à cette douceur que nous procurait la religion, à cette noblesse de l'âme, bonté, appelez ça comme vous voulez, parce que ça nous transportait, ça nous plaçait dans une dimension qui était très belle, celle des mosquées, celle de l'apprentissage, etc.
Alors Kamal Chakat, nous allons procéder de la façon la plus simple pour décortiquer ce manuel de Mukhtasar al-Ibadat lil-Akhdari. Et comme le disait Hussein Hilmi Ishik dans son livre Kitab al-Salat, les missionnaires s'efforcent de propager le christianisme, les sionistes leur protocole, et nous faisons de même pour redonner du sens à cette lumière descendue sur le porteur de la lumière. Alors Kamal Chakat.
Bien sûr, nous sommes animés par ce devoir d'appeler au sentier de Dieu.
Devoir.
Bien sûr, c'est un devoir. Ce que certains appellent prosélytisme religieux, voilà. Nous appelons ça appel au sentier de Dieu. Et nous sommes dans l'obligation de faire ce travail parce que, d'une part, il nous renvoie à l'essentiel même de la création qui est de faire de l'homme un lieutenant de Dieu ou un vicaire de Dieu sur terre. Et puis, d'un autre côté, tout comme l'a fait Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans l'obligation de restaurer les choses, de revenir à l'essentiel même du monothéisme après toute l'altération qu'a connue le monothéisme après Moïse essentiellement et Jésus alayhi wa sallam.
Pourquoi vous avez choisi ce terme, restaurer, Kamal Chakat, ce verbe plus précisément?
Parce que l'islam, comme le dit Dieu subhanahu wa ta'ala en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ, dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Cet islam dont nous parlons n'est pas une nouvelle religion, n'est pas la nouvelle religion. C'est la religion de Dieu, c'est celle de Moïse, celle de Jésus. Il va falloir la réformer, enfin réformer ce qui a été falsifié ou altéré pour revenir à la vérité.
Très bien. Alors, Kamal Chakat, Mukhtasar Abdurrahman al-Akhdari fil ibadat ala madhhab al-imam Maliki radiyallahu ta'ala anhuma amin. Alors, on commence par quoi dans cet ouvrage?
Alors bon, l'auteur commence par ce que nous appelons en langue arabe le basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu ou d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et puis il va faire les saluts et les bénédictions sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Que le salut soit sur notre... Alors sayyidina, bon, certains traduisent cela par notre Seigneur. Généralement, c'est une partie, moi, que je n'aurais pas traduite, tout simplement, parce que le mot « Seigneur », comme le français est une langue trop faible par rapport à l'arabe, on peut pas aborder ce mot, ce terme « Seigneur », comme on l'aborderait en arabe. Bien entendu, dans la langue arabe, on
Seigneur,
peut dire...
Seigneur, maître ?
Oui, maître, ça serait beaucoup plus intéressant dans la mesure où Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, était un maître spirituel. Mais le Seigneur, Seyyid, dans l'absolu, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Et quand on reconnaît Dieu en tant que Seigneur, ça veut dire qu'on le reconnaît en tant que Rabb, c'est-à-dire digne créateur des cieux et de la terre. Et bien sûr, les gens ou les grands savants de cette nation ont tendance à faire la distinction entre Allah, qui est l'un des noms propres de Dieu, et Rabb, qui est un attribut divin qui s'inscrit dans la nature divine même. Donc, quand on traduit ce terme au français, on risque de le dévaloriser quelque peu. Et là, je voudrais revenir sur une chose. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Je suis tombé sur une vidéo sur un réseau social d'un Algérien, un hurluberlu, un néophyte, un niais, un ignare, qui disait « Alhamdoulilah, je ne suis plus un kafir, je ne suis plus un mouchrik. »
C'est bien.
Alhamdoulilah, je ne dis plus « Sallallahu ala sayyidina Muhammad ».
Oh,
j'ai même
c'est
pas,
grave.
Attendez, le problème c'est que quand il a commencé à disserter sur ça, oui, quand Dieu dit « Inna Allah wa malaikata wa salluna ala nabi, ya yulad sallu alayhi wa sallim wa tslima, etc. »« Inna Allah wa malaikata wa salluna ala nabi. » Comment Dieu littéralement prie-t-il sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Salatullahi ala nabiyihi rahmatun minh. C'est une manifestation de sa miséricorde. Salatul malaikati ala nabi, c'est une prière pour que cette miséricorde divine s'abatte carrément sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, quand nous disons cela, nous inscrivons dans la même logique. Alors, où est la mécréance dans tout cela? La question de Sayyiduna Muhammad, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « La tu Sayyiduni, ne dites pas de moi Sayyiduna Muhammad. Mais nous savons très bien qu'il l'a fait par humilité, tout simplement. N'est-ce pas lui qui disait, je pense en parlant de Bilal, Bilalun Sayyiduna ou Ibn Sayyidina, ou de quelqu'un d'autre de ses compagnons. Et à partir de là, nous avons le droit de dire d'un musulman, d'un croyant, Ya Sayyidi. Nous, par exemple, en Algérie, quand nous parlons de Cheikh l'imam Abdurrahman Ta'alibi, nous disons Sidi Abdurrahman. Nous disons Sidi, Sidi Mjdoub, parce que c'était des gens pieux qui ont voué toute leur vie à l'adoration, au bien, à tout ce qui est beau, bon et bien. Mais là, je voudrais juste attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que, actuellement, il y a ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait des Rouaybida. قال وما الرويبدة يا رسول الله قال الرجل التافه يتحدث بين يتكلم في أمر العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام c'est l'insignifiant qui traite de sujets qui le dépassent, qui concernent la société ou qui concernent les gens. Et je ne peux que m'insurger contre le fait que des gens viennent comme ça discuter de religion alors qu'ils n'ont aucune connaissance préalable. Et là encore, parce que nous l'avons déjà fait, et je réitère mon invitation à M. Zawi. Il est en train de discuter maintenant de religion, de s'attaquer à l'islam, et par moments même de s'attaquer à l'arabité avec une connotation raciste. Venez ici, et nous allons discuter, et comme je vous l'ai dit, sans armes, sans haine et sans violence.
Alors, Kamashekat, revenons à notre texte de Mukhtasar al-Akhdari par rapport à la question du tessid. Il est vrai que le prophète al-Islam disait « La tusayyiduni ».«
La tutruni », ne faites pas d'éloge à mon égard comme l'ont fait les chrétiens avec
mais
Jésus.
Mais dans un autre récit, il a dit « Ana sayyidu waladi
Adam wala fakhr ».
Et en plus, il a aussi dit au sujet de son petit-fils qu'il considérait comme son fils
« Sayyida waladi
Inna bni hada sayyid ». ولعل ان يصلح به بين فئتين عظيمتين.
Et il a été un réconciliateur entre le clan de son propre père Ali ibn Abi Talib et celui de Muawiya en se désistant du califat.
Exactement.
Et les gens de Muawiya, Muawiya, il a été l'instigateur, qu'on le veuille ou non, ce sont ceux-là même qui l'ont tué par la suite, ils l'ont trahi.
Donc l'appellation, cette formule de Sayyid existe bel et bien.
Existe bel et bien. Il a parlé aussi de Hassan et Hussein en disant ces deux jeunes sont Sayyida Shababi Ahlil Jannah.
Exactement.
Shababi Jannah.
Il a parlé aussi de Sayyida Fatima alayhi salam.
Oui.
Lorsqu'il était malade et qu'il pressentait sa fin, sa fille est entrée en pleurant. Il lui dit Ala tardaina an takuni Sayyidat Nisa al Jannah ou quelque chose comme ça. Il
Je
a utilisé le terme
Sayyida.
Pour, oui. Pour Fatima alayhi salam.
Je ne connais pas ça.
Comment peut-on dire Sidi à n'importe qui
et ne pas le dire pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le problème est là.
Mon Dieu.
Avec ces gens-là. Alors, le problème, c'est que nous avons eu affaire pendant un certain nombre d'années à des gens qui étaient très, très pointilleux sur l'usage de Sayyiduna Rasulullah, surtout dans Salat l'Ibrahimiyya. Moi, j'ai vu des gens dans des mosquées dire « La yajouz an taqoulou Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ». Nous avons siratayn ou talat sahiha li salat l'Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bien sûr, dans salat l'Ibrahimiyya, quand vous faites ça pendant votre prière, lisez le texte comme cela nous a été transmis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mais si quelqu'un dit Allahumma salli, moi ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi, je dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, la majorité des temps. Ça sort comme ça.
Je le fais dans la salat Kamashaka.
Ça ne peut en aucun cas annuler la prière. Ça, c'est clair.
Je ne peux pas me permettre de dire juste Mohammed.
Oui, mais quand je l'enseigne aux gens, je leur dis, quand vous récitez Salat l'Ibrahimiyya pendant la prière, récitez-la comme cela vous a été transmis par le messager de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mais ne pas dire Sayyiduna Rasulullah ou bien Sayyidi Rasulullah. Mon quand Dieu. Vous parlez de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis désolé. Ceci est un manque de respect manifeste vis-à-vis du sceau des messagers alayhi salatu.
Dites-le en arabe, Kamal Shekat.
Hada sou'u adabin ma'a Rasulillah
sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, le mot est fort.
Il est fort, oui, ouais. Absolument.
سوء أدب مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما شكات, on a commencé par la formule donc du tassyid. Mais oui. Le texte commence par بسم الله الرحمن الرحيم. Et le oui. prophète عليه الصلاة والسلام disait كل عمل ديبال لا يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر. Et dans un autre فهو أبطر
أقطع. Oui, ça veut dire que toute œuvre magistrale, toute œuvre jouissant d'une certaine importance, ne commençant pas par au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et d'entrée de jeu, aqta, abtar, ça veut dire que l'œuvre, elle manque de quelque chose.
Elle est diminuée.
Elle est diminuée. Nous avons la même formule aussi, le même hadith pour kullu amrin dibal, la yabda'u bilhamdulillah. Quoique, bon, alors le problème là encore.
Basmala, alhamdallah.
Nous avons deux hadiths qui parlent de ça, mais les deux hadiths sont des hadiths considérés comme mawqoufain. Ça veut dire que dans leur transmission, on s'arrête au mieux aux successeurs tabi'i qui le rapportent directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par un compagnon. On a qu'une qita en quelque sorte fi sanad. Et le problème, c'est que nous avons katarat riwayat indique que voilà, c'est un hadith qui est tout à fait valable dans la mesure où le livre de Dieu commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Le prophète, alayhi salatu salam, dans ses correspondances, il commençait par Bismillahir Rahmanir Rahim. Les quatre califes le faisaient également, et ainsi que tous les grands régents.
Sidna Sulaiman, alayhi salam, dans la sourate Naml.
Oui.
Sidna Nuh, Bismillahir Majraha wa Mursaha.
Oui, ça c'est. Mais là, nous sommes beaucoup. Oui, nous sommes
dans une. 115 fois cité dans le Coran.
Oui. Et nous avons des gens qui vont voilà jouer sur ça. Attendez, c'est un hadith mawquf, c'est ceci, c'est cela. Moi, ce que ça me rappelle, c'est cet adage qui dit la connaissance ou bien la culture, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus on étale. Ouais, au lieu d'aller vers l'essentiel, on va commencer par patauger comme ça dans des choses de second ordre, juste histoire de faire étalage d'un semblant de connaissance. Les anciens, nos prédécesseurs, nos vieux, nos vieilles, commençaient toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et voilà, les choses marchaient. C'est une formule magique, en fait.
Quels sont les mérites de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim?
Vous savez, c'est...
La recherche de la bénédiction ou toute autre chose?
Oui, je vois tout simplement cela comme une clé qui vous ouvre des vortex là où tout est fermé. Moi, je vois ça comme ça.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à la fin des temps, plutôt le jour de la résurrection?
Je ne sais pas comment...
On dit que ceux qui ont pris l'habitude de dire Bismillah ici-bas,
oui.
Ça leur sera facile de le dire le jour de la résurrection, surtout lorsque Dieu subhanahu prendra leur sigil, leur registre.
Oui, c'est logique. Ce que vous dites est logique. Parce que les gens qui pourront justement dire ce qu'il faut dire en ce jour ô combien terrible, sont des gens qui se sont habitués à dire cela dans leur vie d'ici-bas.
Ah, d'accord.
Oui, nous savons, selon la tradition, que quand nous retrouverons dans nos tombes, nous serons soumis à une épreuve qui est celle de Munkir wa Nakir. C'est les deux anges qui viennent nous poser ces questions. Man rabbuk ma dinuk ma taquluna fi ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et que dites-vous concernant cet homme qui vous a été envoyé? En parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui pourra répondre? C'est celui qui avait l'habitude justement d'agrémenter sa journée par dhikr, par l'évocation de Dieu. Celui qui était en conformité totale avec ce que Dieu a rendu obligatoire.
وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ كَيْفَ عَرَّفَهَا
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا.
Allahu Akbar.
Oui, c'est ça.
Alors, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. Ensuite, il va vers les louanges. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il reprend. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khatamil Nabiyina wa Imamil Mursalin. Sceau des prophètes et imam des messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager que tout le monde attendait. Il a cette place privilégiée parmi les messagers et prophètes de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
De la salat accomplie lors de l'Isra à Jérusalem.
Oui, absolument.
Vous savez, Kamel Chakat, j'ai entendu un podcast récemment de quelqu'un qui disait le prophète Al-Islam a mené cette salat
en congrégation.
Salat en congrégation Jana, avec tous les prophètes et messagers. Ils étaient au nombre 2 et 2 et 2. Mais on ne sait pas ce que c'était une salat obligatoire ou nafila.
Oui. C'est une reconnaissance de Dieu en tant qu'entité vis-à-vis de laquelle nous sommes redevables d'un culte.
Est-ce important de savoir ce que c'était salat mafrouda ou nafila?
Pas du tout.
Surérogatoire.
Nous savons qu'ils ont fait cette prière. Nous savons qu'avant même que la prière pour les musulmans ne devienne obligatoire, le messager de Dieu, alayhi salam, faisait 2 prières par jour. La prière, c'était 2 prières par jour à raison d'une raka, d'une génuflexion, d'une unité de prière pour que les gens comprennent avec une position debout avec récitation, inclinaison et de prosternation. Quand la prière est devenue obligatoire pour les musulmans, après le retour de l'Isra ou le Mi'raj, au lendemain même, Jibril est venu un premier jour. Il est venu vers le messager de Dieu, alayhi sallam, pendant 2 jours. Le premier jour, il a prié avec lui les 5 prières en lui montrant comment les faire. Et le deuxième jour, le second jour plutôt, parce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage après cela, il est revenu et a accompli avec lui les 5 prières, mais pas au même moment que la veille. La veille, il était venu au tout début où la prière devenait obligatoire, l'ouqt al-muhtar, et le second jour, c'était l'ouqt al-daruri, c'est-à-dire au moment où il fallait faire cette prière, sinon on allait entrer dans ce qu'on appelle en langue arabe le qada. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans la période impartie à son accomplissement, mais dans une période où il devient urgent d'accomplir cette prière, sinon son temps va s'écouler. Là, nous sommes dans une nouvelle configuration pour les musulmans qui fait que la prière soit devenue un culte obligatoire. Parler maintenant de cette prière, disserter sur la prière qui a été faite à Jérusalem, dans Qubbat al-Sakhra, ou bien le Masjid al-Aqsa plutôt.
Avant Salat al-Fajr.
Oui, alors, est-ce une prière obligatoire ou pas? Ça me renvoie vers ce que, j'ai lu ça fait très très longtemps, ça fait plus de 40 ans que j'ai lu ça. C'était, alors, Ibn Taymiyyah, comme le savent beaucoup, c'est un grand monsieur qui a beaucoup fait pour l'émancipation des musulmans, surtout du joug des Mongols. Il les a combattus comme pas possible. C'était un homme doué d'un courage terrible. Il a monté des armées pour récupérer la situation. Et alors que lui-même œuvrait pour appeler les musulmans au djihad, à l'image de certains de nos savants qui sillonnaient l'Algérie pour appeler les gens à se réveiller, à se révolter contre la colonisation française, il a trouvé, selon ce que racontent certains, dans une petite bourgade, des gens autour d'un pseudo-érudit qui leur parlait de Nemlet Sidna Suleiman.
Allahu Akbar. Quelle pérégrination.
Cette fourmi qui a dit وقالت نملتون. وقالت نملتون signifie.
C'est femelle.
Non, قالت نملتون, c'est un terme générique, Nemla. On ne dit pas قال نملون. On dit قالت نملتون, même si on parle d'un
mal.
Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le Coran dit « qalat namlatun », des Japonais ont découvert que les fourmis n'ont pas un langage, mais ils ont une langue. Pratiquement 3000 mots dans le langage des fourmis. « Qalat namlatun ». Et donc, ce pseudo-érudit était là, les gens étaient autour de lui, l'écoutaient de manière solennelle. Il dissertait sur un point, mais alors, un point terrible de la religion. Cette Nemla qui a discuté, qui a parlé aux autres fourmis, était-ce une femelle ou un mâle? Dakarun am unta.
Ça changerait quoi, Kamel Chakat?
Ah, beaucoup de choses.
Par exemple,
ça rendrait la tâche plus facile à ceux qui veulent détruire l'islam et les musulmans. Non, mais attendez, est-ce que c'était une salat obligatoire ou surérogatoire? Vous savez, je vais vous donner une réponse.
Des élucubrations qui nous avanceraient à quoi?
C'était une prière obligatoire. Voici ma réponse.
D'accord.
Pourquoi je dis cela? Parce que pour un prophète et un messager, ce qui est surérogatoire pour vous et moi, devient obligatoire. La tâche la plus insignifiante, celle à laquelle ni moi ni vous ne prêterions attention, devient pour un messager, un prophète, quelque chose d'extrêmement important, parce que ça relève des affaires de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tout simplement.
Donc cette salate a été certainement une prière de gratitude, de reconnaissance et d'ancrage.
Oui.
Ancrage de l'islam, de restauration.
Oui, tout comme l'a été cette prosternation faite en l'honneur de la création d'Adam dans un autre monde, un monde qui n'est pas celui-là, un jardin délicieux qu'on appelle Jannah. On ne sait pas si c'est le Jannah à laquelle sont promis les vertueux ou c'est une Jannah qui fait partie d'un monde spécial où ont séjourné Adam et Ève. Disserter sur ça, franchement, je suis désolé, mais...
Ça nous dissipe, ça nous éloigne de l'essentiel.
Ça dilue les facultés mentales d'une personne dans des choses.
C'est pour ça qu'à Machekat, que les coachs en PNL et en toutes ces théories liées aux neurosciences nous parlent d'un alignement, d'un ancrage, d'une synchronisation. Il s'agit de la même chose aussi en religion.
Absolument.
Parce que c'est ce qu'a fait le prophète Al-Estatouslam par rapport à l'histoire de l'islam de Sidna Adam Al-Estatouslam.
Aller à l'essentiel.
Ouais, l'alignement.
Oui.
Continuons, Kamashukat, s'il vous plaît, avec le texte de l'imam al-Akhdari.
Alors ensuite, il commence par dire « Awwalu ma yajibu ala al-mukallaf », la première chose qui est due à celui qui est donc « mukallaf », ça veut dire celui qui est responsable. Ici, on peut traduire par responsable « tklif », c'est le fait de charger quelqu'un d'une mission. Et quand on dit en langue arabe « mukallaf », ça veut dire que quand on atteint la puberté, on s'inscrit dans ce désir de Dieu subhanahu wa ta'ala de faire de nous ses vicaires sur terre. Donc on s'investit de cette mission de Khalifatullah fil ard. C'est pour ça que nous parlons de mukallaf, de responsable.
Kamashikat, j'aime beaucoup l'expression de Sulayman Bachir Diagne, qui est un des grands philosophes musulmans de notre époque. Oui. Tenant lieu. C'est quoi la différence entre tenant lieu et lieutenant?
Ça mériterait une émission à part entière. C'est vrai, être lieutenant de Dieu,
c'est pompeux, c'est énorme.
C'est énorme, oui, mais bon, tenant lieu, bien sûr, là, c'est quand on s'inscrit dans cette humilité que nous devrions manifester vis-à-vis de Dieu, nous sommes tenant lieu de lieutenant de Dieu sur terre. Mais prendre aussi ce terme comme ça à la lettre pourrait être bénéfique pour l'homme dans la mesure où il mettrait l'être humain face à cette responsabilité, à cet honneur, et essayer d'être à la hauteur justement de cette tâche.
Kemashukat, vous avez commencé par décortiquer le terme « mukallaf ».
Oui.
Mais il a précédé le « mukallaf » par un verbe.
« Waluma yajibu ala al-mukallaf ».
Yajib.
Ça veut dire, oui, nous sommes là
d'obligation.
Dans... Oui, nous sommes
et
dans
l'obligation. Et ça nous renvoie au ahkam al-khams.
Quand vous dites l'ahkam, vous parlez de ce qui est obligatoire. L'wajib al-mandoub.
Ma yajibou.
Oui, ce qui est obligatoire, ce qui est fortement recommandé ou conseillé. Donc sunna, ce que nous appelons aussi sunna. Ensuite, vous avez l'haram, l'interdit, l'makroh, ce qui est déconseillé ou abhorré. Et ensuite, le mubah, ce qui est autorisé. Ça, c'est l'ahkam al-khams. Oui, bon, parce que nous sommes dans ce qui relève de ce qui est obligatoire ou ce qui a été rendu obligatoire par Dieu.
Yajib, donc, haut du podium, que tout le monde doit connaître.
Absolument. Là, il dit « tashihu imanihi », rectifier sa foi. « Thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi ». Quand on dit « tashih l'iman », moi, je traduis ça par « rectifier sa foi ». Rectifier nécessite obligatoirement d'être toujours alerte, conscient de ce que nous sommes en train de faire afin de ne pas dévier. Parce que tout le problème de l'humanité est là. La déviation commence par des petites mutations, tout aussi insignifiantes les unes que les autres, qui vont s'accumuler sur de très longues périodes. Et en fin de parcours, vous allez vous retrouver aux antipodes de ce qui était obligatoire.
des petits laissés-aller, des petits malices, je le ferai plus
Écoutez,
tard, un peu de procrastination.
Le prophète, oui, la procrastination, oui, je ferai ça demain, oui, je ferai ça. Oui, non, mais on a toujours bon espoir de faire quelque chose de bien, mais dans l'avenir, pas dans l'immédiat. Déjà, concernant ce principe, nous avons cette dernière recommandation du messager de Dieu, alayhi salatu salam, lors de son oraison d'adieu, khutbatul wada', où il disait « Yuhannas, inna shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum ». Le diable, ou bien Satan, a perdu tout espoir d'être adoré ici sur votre terre, qui est la terre sainte.
Mais,
si vous vous laissiez aller, لكنه راضي فيما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. Donc, mais si vous laissiez faire dans ce que vous jugez négligeable de votre religion, il s'en accommode. Je ne sais plus qui a dit ça, l'une des plus grandes réussites ou ruses de Satan, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Beaucoup de gens ont disserté sur Dieu. Personne ne disserte sur Satan. Et le problème est là. Le problème, c'est qu'il est là, il est à l'affût et il arrive toujours à se placer au bon moment.
On en est arrivé, Kamel Shkat, à entendre des gens qui nous disent « Pourquoi vous collez tout à Satan ?»
Oui.
« Mais vous en êtes responsable.
Non.
C'est Satan ?»
Oui,
nous
sommes responsables. Mais c'est lui le premier responsable.
L'instigateur du mal.
Bien sûr.
S'il est dit « Wa la tahqirana min al ma'roufi shay'an » Donc « Wa la tahqirana min le ghafla » et les manquements.
Oui, là aussi, oui. « Babul mukhalafati fi an-nas » Si nous sommes tenus de ne rien minimiser des bonnes actions, aussi insignifiantes soient-elles, nous sommes aussi censés ne rien négliger des mauvaises actions en disant « Ah, dikdba beda, oui, ça c'est minime, il n'y a pas de problème. »
Parce que ça commence toujours comme ça et ça
devient... Mais en tout cas, là, il y a déjà un premier point. « Awwalu ma yajibu ala al-mukallaf » Moi, ça m'intéresse. Et c'est un point sur lequel beaucoup de gens n'ont pas disserté. Peut-être que les sciences humaines à l'époque n'étaient pas aussi, aussi développées. Mais là, il y a un point très très important. Vous savez, quand nous étudions un certain nombre de phénomènes sociaux, et surtout quand nous parlons de la jeunesse, nous parlons actuellement de l'âge ingrat, par exemple, l'adolescence. Et nous avons tendance, conformément à un certain nombre de connaissances acquises, de théories qui sont devenues carrément des vérités absolues, que voilà, les jeunes, nos jeunes, ceux qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, avant, d'ailleurs, ils ne sont pas responsables devant la justice parce qu'ils sont considérés comme mineurs. Alors, quelle différence existe-t-il entre une personne qui a atteint sa puberté à l'âge de 12, 13 ans et cette même personne à 18 ans moins un jour ? Quelle différence y a-t-il entre 18 ans moins un jour et 18 ans plus un jour ?
Ben, ils sont dans le même bain, hein, du moment que
normalement,
qu'ils ont atteint l'âge de puberté, parfois à l'âge de 11 ans.
Là, le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens sont considérés comme mineurs avant d'avoir atteint les 18 ans.
Alors qu'il y a cette dualité entre...
En religion, non.
Le civil et le...
Pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, non. Vous avez atteint votre puberté, vous êtes majeur. Vous êtes responsable de vos actes, devant Dieu et devant les hommes. Et là, c'est un point sur lequel, normalement, nos érudits, ceux qui sont spécialisés dans les sciences humaines, devraient travailler. Parce que cette notion de mineur et majeur, elle n'est entrée en jeu qu'il y a à peine un siècle et demi, peut-être deux siècles, tout au plus. Avant, les jeunes gens, un jeune homme de 12-13 ans, c'était un homme.
Ouais,
il travaillait, il pouvait même se marier.
Subvenir à toute une famille. Oui.
Aujourd'hui, vous allez dans ces fameux Mac Store, ou je ne sais comment on les appelle, tout dépend des pays. Je ne sais pas, moi, quand je vais acheter, par exemple, un jeu pour mon fils, à l'époque où je lui ai acheté encore des jeux, j'ai un fils qui n'a que 11 ans, mais pour lequel je n'achète plus de jeux, parce qu'il est temps qu'il se déconnecte un peu de tout ce qui est console.
Ça dépend du
jeu.
Degré de maturité.
Non, c'est un travail que nous sommes dans l'obligation de faire en tant que parents.
Absolument.
Et ma foi, il m'est arrivé d'entrer dans ces lieux, Et je me retrouve avec des gamins de 45 ans, de 40 ans, de 35 ans, qui sont là à acheter. Ah, t'as vu, c'est la dernière version de FIFA, je ne sais quoi. C'est incroyable, c'est terrible. Et puis, ça me renvoie à ce qui a été écrit par les protocoles, par les sages de Sion, quoi. Ou qui donnait le modus operandi quant à mettre en pratique tous ces protocoles, comment abrutir des générations entières.
Ou la pyramide du consentement, ou l'échelle du consentement.
C'est ça. Ici, le mot mukallaf est très important. Tashihul iman signifie que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie. C'est pas parce que nous sommes en train de faire notre prière, parce que nous sommes dans des mosquées, que voilà, nous sommes des musulmans aboutis. Ensuite, il dit « Thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynih ». Le fard, nous avons deux catégories d'obligatoires. Il y a fardul ayn, c'est l'obligation tout court, et il y a fardul kifaya.
Je pense que vous devriez revenir avec ce segment la semaine prochaine, Kamal
Inchal.
Chakat. Je voudrais juste insister sur shurut taklif, Kamal Chakat.
Oui.
Le boulour,
oui,
la
puberté, donc la puberté, l'aql, c'est la maturité, c'est la raison.
D'accord.
Wusul dawa, c'est le fait d'avoir pris connaissance du message, du dernier message, ou bien du fait que ce créateur qui nous a créés nous a envoyé des messagers pour nous faire connaître ou nous présenter ce créateur et ce qui est dû à ce créateur.
Aujourd'hui, l'on entend Kamal Chakat, des orateurs, dire que les tribus qui vivent au fin fond de l'Amazonie ne peuvent pas être comptables de leurs actes et forcément, ils entreraient illico presto au paradis.
Vous savez, c'est une question qui mérite aussi d'être creusée parce que elle va nous renvoyer à un problème qui a suscité beaucoup, beaucoup de dissertations de la part des érudits, des savants musulmans. Et c'est celui concernant les parents même de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avons un hadith où le messager de Dieu alayhi wa sallam a demandé à Dieu de prier pour sa maman. On vous dit non, il en a été empêché. Ensuite, il a demandé l'autorisation d'aller visiter sa tombe et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis cela. Vous savez, c'est un hadith sur lequel nous allons revenir parce qu'il mérite vraiment une dissertation. Nous sommes d'avis. Du moins, moi, je suis d'avis, conformément à ce qui a vraiment conforté ma foi, c'est que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de ce que nous appelons « ahlul fitra », ceux qui n'ont pas reçu le message. Et il est dit dans le Coran que Dieu subhanahu wa ta'ala n'est point tel à « wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid », ton Seigneur n'est point injuste avec les serviteurs.
Mais Kamal Chakat, de vous à moi, imaginez que cette dame qui a été élue, sélectionnée depuis des milliards d'années peut-être, pour porter en son sein le sceau des prophètes, Rahmatul Muhdat, on dit dans des hadiths « Awal ma khalaq Allah nura nabiyika ya Jabir » que ses parents soient en enfer.
Oui.
Sérieusement.
Vous, nous avons des prédicateurs de pacotille qui le disent.
Vraiment, je suis émue.
Non, quand bien même on ne pourrait statuer de manière tranchée sur ce point, je ne sais pas moi, la bienséance vis-à-vis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nécessiterait que l'on se taise à ce sujet. Ça, c'est le moins que l'on puisse faire normalement. Mais voilà, vous avez des gens qui, comme je le disais en tout début d'émission, tout va vous renvoyer à cet adage qui dit la connaissance, la culture, les connaissances religieuses, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus en étale. Alors, soit vous allez à l'essentiel, comme le faisait Ibn Taymiyyah en appelant les gens à se défaire du joug des Mongols, soit vous allez dans des dissertations concernant Nemla de Sidna Souleyman, était-ce un mâle ou une femelle? Tout comme nous avons vu actuellement des gens qui ont, au moment où l'humanité est en train de vivre l'une des plus grosses tragédies de l'histoire de l'humanité, celle des Palestiniens, vous avez un pseudo-érudit qui va venir vous parler de « voilà, oui, il est plus important de savoir comment faire ses ablutions quand on a fait ses besoins. Nous allons, le jour du jugement dernier, faire face à notre manquement quant à connaître les principes des ablutions intimes. Et ceci est beaucoup plus important que de parler de Gaza et de ce qui s'y passe.
Tout a été programmé pour cette finalité, Kamal Shakat, pour Bit Betna. Je vous remercie Amine, pour ce retour de Mukhtasar al-Khadari dans Au cœur de l'Islam. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous, celui du 18 Muharram. Merci beaucoup, Kamal Shakat. Au revoir, bon week-end.
Merci à vous de même.
Thank you.